Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Présence dans votre émission Vivante Église. Vous en avez l'habitude, on se retrouve tous les jours pendant une heure et aujourd'hui c'est une nouvelle émission cinéma qui vous attend. Et pour m'accompagner, les deux spécialistes de la radio, deux spécialistes cinéma, Louis-Marie Solaire à la tête de N'oubliez pas, l'ouvreuse, l'émission cinéma de la radio depuis 36 ans, et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAM et l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour à tous les deux, messieurs.
Bonjour, Timothée.
Bonjour, Timothée, bonjour à tous.
Et bonjour à tous aussi.
Et les deux films que nous allons décrypter, analyser aujourd'hui, c'est L'Innocent et Julieta de Pablo Almodovar. Le premier film que nous allons étudier aujourd'hui, je le disais, c'est L'Innocent, un film de Louis Garrel qui est actuellement à l'affiche. Je vous en propose d'ailleurs un résumé. Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bel et bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Messieurs, c'est le quatrième long-métrage de Louis Garrel. Là, il se lance sur le terrain glissant de la comédie. On sait que c'est difficile, mais là, on tombe pas trop dans, même pas du tout, dans le ridicule, on peut le dire.
Ah non, on est loin du ridicule. Et d'ailleurs, le synopsis n'est pas tellement fidèle. En tout cas, ce qu'on peut en lire dans la presse et ce que peuvent découvrir les spectateurs, comme nous l'avons découvert aussi, n'est pas vraiment à l'image de ce qui se passe à l'écran, parce que de nouvelles perspectives s'offrent à lui avec l'affiche un petit peu tendancieuse. Quand je dis tendancieuse, c'est pas péjoratif dans le qualificatif que je veux employer, mais simplement pour qu'il laisse présager aux spectateurs que le film ne sera qu'un film de casse ou un film où on va se battre, où on va tirer des coups de feu. Il va y avoir ça dans le film, mais il n'y a pas que ça. Et c'est avant tout un mélange, effectivement, de comédie, vous l'avez dit, Timothée, mais aussi de polar, de film de braquage, qui est un film, un genre en soi, hein. On se souvient de Ocean's Eleven et de ses suites, et qui ont fort bien marché. On est là, on est plutôt dans ce genre de film, avec la comédie qui vient pointer son nez. D'ailleurs, Garrel, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parle de son film comme une tragicomédie. Et après tout, c'est ce qui lui convient le mieux.
Et il dit aussi, je l'ai entendu dans une interview, il dit, mais j'ai fait un film de variété, comme on dit des chansons de variété. C'est-à-dire, c'est léger. Je ne voulais pas que les gens se prennent la tête. Mmh. Mais en même temps, c'est de variété parce que ça a trait à des genres cinématographiques très variés. Le film de casse, la romance amoureuse, enfin plusieurs genres. C'est très 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 construit. Il ne voulait pas du tout faire un film naturaliste. C'est très écrit, le scénario est très élaboré. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et il dit, je veux que c'est une histoire pour grand public, pour tout le monde, et qu'ils y prennent du plaisir. Voilà, c'est pas un film pour se prendre la tête, même si quand on l'analyse, c'est très très fort, très très bien ficelé, le scénario, la façon de filmer. Louis Garrel a une culture, de par ses réalisations précédentes, mais aussi sa culture cinématographique extraordinaire. Il emprunte à Truffaut, il emprunte au cinéma italien, il emprunte, il a plein de références. Mais à la limite, peu importe, c'est ce qu'il en fait qui est intéressant.
Et pour en revenir à son propos, il vaudrait mieux en parler comme ça de son film. L'histoire d'un fils qui s'appelle Abel, c'est pas un hasard parce que ça c'est pour la petite histoire. C'est son quatrième film, vous l'avez signalé, Timothée, et dans chacun de ses quatre films, il est dans ses films, il joue dans ses films, et le personnage qu'il interprète s'appelle Abel. Mmh. C'est-à-dire que quand on lui demande « mais pourquoi ?» comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc il ne se trompe pas, il est bien un personnage de ton film. Donc fin de la parenthèse, Abel à nouveau, pour la quatrième fois, se rend compte que sa mère, qui est, vous l'avez dit, comédienne et qui va faire des ateliers théâtre en prison, s'éprend d'un des tolards. Voilà, vous l'avez dit, il s'éprend d'un des tolards. Et en fait, ça l'inquiète à lui, parce qu'il se demande ce qui va se passer, d'autant qu'elle a le bon goût de se marier en prison la veille du jour de la sortie de Michel, son mari.
Donc c'est volontaire.
Oui, c'est volontaire. Elle s'est mariée et ils vont vivre ensemble et ils vont ouvrir un magasin de fleurs. Alors pour Abel, c'est trop. C'est pas possible. Cet homme qui est là pour des braquages, on le sait, se marie avec sa maman et ouvre un magasin de fleurs. Non, ça, c'est trop beau pour être honnête.
Oui. Il y a quelque chose de pas clair dans l'histoire et il va se mettre à épier. Enfin, à faire
des filatures,
tout ça, parce que y a quelque chose quelque part qui peut pas aller, quoi.
Mais c'est des filatures comme on voit les filatures dans les comédies. Vous voyez, c'est cet homme qui court et dès que la personne qui le file se retourne, hop, se cache derrière une voiture où il a la tête qui apparaît. On sait très bien que la personne qui est filée sait qu'elle l'est. C'est pas possible qu'on ne remarque pas. En plus, il est très grand. Maladroit, gauche. Et en fait, on se rend compte là, bon, c'est bel et bien une comédie, mais c'est aussi, et on commence sur une comédie qui pourrait être une chronique sociale, parce que c'est le rapport d'une mère avec son fils. Elle l'a élevé seule, il a grandi avec elle, il connaît, et il veut pas, et puis il est jaloux aussi, il veut pas qu'il y arrive n'importe quoi, mais il est quand même jaloux, elle s'est mariée avec un type... qui a de l'allure quand même. Hein.
Oui, oui,
il est beau
mec,
il est grand, une stature, une belle voix. Enfin, il en impose.
Et en même temps, il y a un rapport fils-mère qui est très très intéressant. Parce que tout ce qu'il entreprend, c'est pour protéger sa mère. Parce qu'il se dit, elle est en train de se faire avoir. Là. Elle a grand cœur et tout ça, et des grands sentiments. Mais la vie, c'est pas comme ça. Hein, et c'est louche. Donc, elle va se faire avoir.
Mais vous l'avez dit, le film est dédié à la mère du réalisateur, la comédienne Brigitte Sy, qui elle-même a épousé un détenu quand elle avait 18 ans.
Oui, donc c'est quelque chose que Louis Garrel a connu quand il avait effectivement 18 ans. Il ne s'en cache pas, mais il s'en détache malgré tout.
Oui.
Il en fait une comédie, il s'est basé de ça, de cette histoire vraie qu'il a vécue, mais il en fait pas un film autobiographique. C'est une façon de rendre hommage à sa mère, c'est une façon de parler de son travail, mais ce n'est qu'une façon, et il s'en détache pour en faire un film tout à fait personnel, qui s'éloigne quand même de sa vie personnelle à lui, et de celle de sa mère.
Et l'écriture permet de passer d'une expérience personnelle ou individuelle à quelque chose de comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que ça prend, à cause de la précision sur les sentiments qui se jouent, les actions qui se passent, il y a un effet catharsique et une dimension universelle. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans cette histoire parce qu'elle a une valeur qui dépasse de beaucoup l'expérience propre de Louis Garrel et de sa mère.
Et alors, il prend le contre-pied de son précédent film, d'une certaine façon. La Croisade, où c'était un couple de parents qui découvraient que leurs enfants revendaient des trucs qui piquaient dans la maison pour pouvoir sauver la planète. Donc, c'était des parents qui avaient des problèmes avec leurs enfants. Et là, ils renversent la situation. C'est une maman qui a des problèmes avec son fils. Une maman qui a des problèmes avec son fils âgé, parce que il a à l'écran l'âge qu'il a à la ville, quoi. C'est-à-dire une quarantaine d'années.
35, oui.
Une petite quarantaine d'années.
On est toujours sur des thématiques sociales avec Louis Garrel.
Non, là, il va dans un sentier qu'il n'avait pas exploré encore. Ses précédents films, qui avaient pour titre Les deux amis et l'homme fidèle, sont des longs métrages qu'on pourrait qualifier de très parisiens. Une cinématographie très parisienne. Et La Croisade, là, dont je viens de parler, c'est un film à hauteur d'enfant. C'est une comédie, mais une comédie où l'enfant est au centre de l'histoire et l'écologie aussi et le fait de sauver la planète. Voilà. Donc on est dans quelque chose là avec L'Innocent qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, pas du tout.
Oui, c'est pas d'abord un film à dimension sociale. Il ne s'agit pas de traiter que deviennent les prisonniers une fois libérés, ou les amours impossibles entre quelqu'un qui intervient dans une prison et un prisonnier. C'est sur une histoire d'amour et d'attention et de soins entre les personnes. C'est très beau en même temps. Même si y a des truands et tout, ça reste des gens avec un grand cœur et sans être mièvre ni caricatural. C'est très beau.
Et puis pour le film de braquage, il n'a pas essayé de reproduire ces films de braquage fameux dont j'ai parlé, Ocean's Eleven ou les films de Michael Mann, Heat. Tout. Non, il dit justement non, on ne va pas faire quelque chose. Et puis il ne voulait pas faire quelque chose de braquage à la française, où c'est vrai, il a raison, les films de braquage à la française, c'est surtout des fourgons qu'on attaque dans les films français. Allez. Et donc pas de ça, pas de braquage à l'américaine, qu'est-ce qu'il trouve ? Ils vont piquer du caviar dans un camion qui transporte du caviar. Alors ça demande de la logistique parce que le caviar, ça a besoin de frais. Donc il faut piquer le caviar, mais il ne faut pas qu'ils perdent le caviar pour l'avoir laissé au chaud. Donc voilà, il prend des genres et il les détourne et il mélange tout ça. Et avec son passé aussi de théâtre. Parce que, effectivement, les mots, il aime écrire. Et le théâtre, il sait, il a joué les fausses confidences, les marivaudages. Donc, il sait de quoi il parle, quoi. Et il joue avec ça, et il joue diablement bien. Ce qui lui permet aussi d'avancer parfaitement, c'est le choix de sa distribution, son casting. Là, il est tombé pile, pile comme il...
D'ailleurs, il a dit qu'il choisissait ses acteurs, non pas un après l'autre, mais deux par deux. Parce que là, c'est des couples qui vont être mis en scène, et l'histoire, c'est celle de couple. Eh bien, il faut que la rencontre des deux soit évidente. Et parce que cette rencontre-là, elle fait comme un troisième élément. Ce n'est pas un plus un... C'est eux deux ensemble qui font apparaître quelque chose. Et dans des interviews, les acteurs disent comment c'était pour eux quelque chose d'assez original dans leur carrière d'interprète.
Parce que dans son film, on retrouve Anouk Grimberg, qu'on voit peu à l'écran, mais qui, chaque fois qu'on la voit... montre qu'elle a su être brillante quand elle était avec Bertrand Blier, qui l'a révélé, mais qu'elle est capable, qu'elle a une palette extraordinaire. Et dans ce cas-là, à la fois dans la comédie grave, la femme amoureuse, elle est extraordinaire en femme amoureuse, à poursuivre le fourgon de son futur mari en klaxonnant derrière, en se mettant à la hauteur, risquant sa vie, juste pour lui crier « je t'aime ». Voilà, et Roche Dizem est parfait aussi. C'est vrai, il l'a dit lui-même, qu'on lui a souvent proposé de faire des films de gangsters sérieux, avec, faut dire qu'avec le physique qu'il a, il a du mal à échapper à ce genre de proposition. Et il aurait refusé s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour.
Oui.
Avant tout, c'est une histoire d'amour.
Oui, on parle de ça.
Après, il y a un film de casse. On ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut découvrir pourquoi ils vont s'aventurer dans cette histoire. Lui d'abord et par la même occasion Amel. Mais pourquoi donc ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui a intéressé Roche Dizem. Mais c'est sûrement pour ça que Anouk Grimberg et lui forment un couple extraordinaire. Je reprends le qualificatif que Garel a employé. Iconique, oui, c'est un couple iconique. C'est un couple qui marquera. On se souviendra d'Anouk Grimberg, je pense, et Roche Dizem dans ce film. Comme on se souviendra aussi de Noémie Merlan, qui, jusqu'à présent, elle aussi, qu'on n'avait pas vue dans l'emploi de la comédie. Noémie Merlan, jeune actrice formidable qui fait des films souvent difficile, voire taiseux, n'exagérons rien, mais enfin souvent, on se souvient dans La jeune fille en feu, où elle jouait le rôle d'un peintre qui devait capter son modèle, parce que à l'époque, c'était le seul moyen d'envoyer un portrait à un futur époux. Vous savez, c'était à cette époque où, dans les bonnes familles, les mariages sont arrangés, mais on ne pouvait pas envoyer de photos à l'époque. Donc on envoyait un tableau. Mais elle, pour faire son tableau, c'est l'argument du film, elle voulait suivre son modèle. Voilà. Donc vous voyez, elle passe de ça à un moment où elle fait de, elle joue de la pure comédie, où elle crie haut et fort. Elle est brillantissime aussi. Et avec Louis Garrel, oui, il forme un couple formidable.
C'est un film aussi hommage au métier d'acteur. Et il y a des scènes extraordinaires où ils mettent en place leur projet de braquage en faisant du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un compagnon de tôle qui joue le rôle, enfin ils font de l'acteur studio, en disant mais écoute tes émotions, là t'es pas crédible.
Et alors le, ce qui est drôle, c'est que les metteurs en scène, ce sont les truands,
oui, c'est...
qui s'adressent à ceux qui ne le sont pas. Mais tu joues pas bien là, mais il va là, le chercher.
On te croit pas, allez.
C'est, il y a tout ce décalage qui fait que toutes ces petites choses, mi bout à bout, fait quelque chose de tout à fait homogène. Et après on sentira pas ces petits bouts. Ça vient et on trouve ça finalement tout à fait logique.
Oui.
C'est le talent probablement.
Oui, sûrement.
J'aimerais qu'on revienne sur le titre « L'innocent ». De quel innocent on parle ? D'Abel ?
Là, c'est compliqué. L'innocent, oui, probablement, ça peut être Abel, bien sûr. Ça peut être Michel, l'ancien tolard aussi. Oui. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ça ne serait pas lui ? Qui serait cet innocent ? C'est qui ? Et qui est aussi l'innocent ? C'est peut-être bien le spectateur dans son fauteuil quand il est face à l'écran. Tout ça, on peut se poser toutes ces questions. Et les réponses, on peut toutes les justifier. Après tout, oui, c'est Abel l'innocent, c'est Michel l'innocent, c'est le spectateur
l'innocent. Ça peut être aussi sa mère.
C'est peut-être la mère
qui
aussi.
Qui, par amour, s'embarque dans des trucs, elle n'est pas consciente là.
Ou Clémence, la copine.
Ou la copine.
Qui joue un rôle capital.
Capital, oui.
Dans cette comédie, dans ce braquage.
C'est un film touchant, rafraîchissant, on peut le présenter comme ça.
Oui, et qui correspond au projet de Louis Garrel, c'est un film qui fait plaisir, c'est-à-dire qui donne envie qui fait du bien, qui donne envie de vivre. Voilà, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pas pour décortiquer, même si c'est très très finement construit, ça fait du bien. Il dit voilà, ça c'est du cinéma populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire que voilà, on peut s'y retrouver et ça respecte le spectateur.
En fait, s'il y avait un cahier des charges au cinéma par rapport à un genre, quel qu'il soit, et que pour que ce cahier des charges soit respecté, il fallait cocher des cases, bon ben ce film-là, pour la tragicomédie, pour la comédie, le film de braquage, il coche toutes les cases. Il est ce que peut attendre le spectateur quand il s'installe dans un fauteuil qu'il va voir quelque chose. Il correspond tout à fait à ce qu'on a envie de voir quand on va au cinéma. Tout simplement.
Et ça fait du bien.
Ouais.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On va écouter une autre histoire de Gérard Blanc. C'est une musique qu'on retrouve dans le film, c'est ça ?
Oui. Il aime beaucoup la musique, la variété française et Gérard Blanc en fait partie. Oui. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Catherine Lara, il y a aussi Herbert Léonard. C'est du très très lourd.
Pour les amoureux, en tout cas, de la variété française, c'est le bon film.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même un Italien en plus qui ravira les Italiens aussi.
Il adore aussi le cinéma italien.
Eh bien, on écoute une autre histoire de Gérard Blanc.
La vie commence comme ça encore une fois.
Dans le Grand Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, toujours en présence de Louis-Marie Solaire à la tête de N'oubliez pas l'ouvreuse, l'émission cinéma de la radio depuis 36 ans, et Paul Gima, ancien formateur à l'ISCAM et à l'Institut catholique de Toulouse, pour cette émission cinéma. Juste avant la pause musicale, on parlait de ce film qui est à l'affiche, L'Innocent, un film de Louis Garrel. Et vous avez un petit mot à nous dire, Paul Gima, pour clôturer sur ce film?
Alors, pour ouvrir à ce film, il y aura une séance avec projection, présentation du réalisateur et débat proposé à la fin pour ceux qui veulent y rester. Une représentation le mardi 18 à 14h30 au cinéma ABC.
À Toulouse.
Voilà. Et pour y aller, ben, vous prenez votre place au cinéma ABC et puis vous restez au débat si vous êtes intéressé. Et il y a vraiment de quoi partager beaucoup.
Il y aura de quoi dire.
Oui.
On l'a vu. Le deuxième film que nous allons étudier aujourd'hui, dont nous allons parler, c'est Julieta, un film sorti en 2016 du célèbre réalisateur espagnol Pablo Almodóvar.
Pedro
Almodóvar. Le film raconte l'histoire de Julieta qui s'apprête à quitter Madrid lorsqu'elle rencontre Bea, une amie d'enfance de sa fille, Antia. Dans un fol espoir de retrouvailles, elle va lui écrire tout ce qu'elle ne lui a jamais dit. C'est un film déjà, rien que en lisant le résumé, on sent que ça va être puissant.
Pedro Almodovar, au moment où il a tourné ce film, il sortait de Des Amants Passagers. C'était une comédie aérienne, si vous pouvez dire ça comme ça, aérienne dans le sens où ça se passait dans un avion. C'était... on avait connu Pedro Almodovar dans une meilleure forme que pour Les Amants Passagers. Et le revoilà avec Julieta. Hein, le film est sorti, ça devait être en 2016.
C'est ça, 2016.
2016, et Les Amants Passagers daté de 2013. Donc le revoilà avec Julieta. Et là, avec ce film, il revient dans le mélo, un genre qu'il affectionne particulièrement. Et en particulier quand il y a une histoire... souvent entre une mère et sa fille, en fait c'est des relations filiales, mais entre femmes, entre maman et fille, souvent, hein, il y a d'autres exemples, Tout sur ma mère, parle avec elle, il y a souvent ça, en tout cas, ces conversations même, et ces préoccupations, même si c'est pas toujours, je disais, une mère et sa fille. En tout cas, là, il reverse dans ce mélo de ce genre et le dernier qu'il avait fait en date, je crois, d'après les notes que j'ai, c'était Étreinte brisée, qui se passait dans les années 80. Et alors, il revient donc à cet esprit, à ces récits, et il y mêle des choses de son propre cinéma. Il s'auto, cite. Hein, si on peut dire, oui, d'une certaine façon.
Oui, oui.
Pas parodie, hein, il s'auto-cite. Et dans l'histoire de ce portrait de femme travaillé par l'escamotage d'un enfant, on a eu ça dans ses films, puisqu'il y a, je parlais de Tout sur ma mère, c'est ça. Et puis il y a aussi de la tragédie, et puis il y a du drame, il y a des ellipses, il y a des choses qui vont perdre le spectateur dans les méandres de son histoire pour mieux l'accrocher et oui, le rattraper au vol par quelque chose qui est très fort et très puissant.
Et ça, dès le début du film.
D'emblée.
On voit un couple tout à fait crédible qui a la 45 ans.
Cinquantaine.
Et qui a convenu de quitter leur appartement madrilène pour partir au Portugal. Et puis c'est d'accord. Et le compagnon de la femme dit ben, « Je te remercie de ne pas me laisser vieillir tout seul. » Et puis cette femme rencontre par hasard dans la rue une amie de sa fille. Mais 12 ans après, sans s'être jamais revue entre les deux, et qui lui dit, qui lui donne des nouvelles de sa fille. Et là, tout d'un coup, la mère arrête tout projet. Et elle dit à son compagnon, je ne pars pas. Et elle recherche un appartement dans l'espace où elle habitait avant, parce que sa fille est partie sans laisser d'adresse, c'est le moment de le dire. Et elle n'a plus aucun contact avec elle depuis 12 ans. Et elle espère qu'un jour, elle va revenir. Donc c'est d'emblée l'histoire d'un manque. Et puis on découvre après que ce manque aussi est sur fond de culpabilité, parce qu'il lui est arrivé plusieurs événements qui ont fait que les choses se sont défaites. Et elle emporte une part de responsabilité très lourde pour elle. Mmh. Elle tombe dans une espèce de dépression. Et elle décide d'écrire à sa fille, à qui elle n'a jamais pu dire tout ce qu'elle a à écrire. C'est ça le début. Donc c'est l'histoire d'une femme qui souffre d'un manque. Et alors le film est construit de façon très habile par des flashbacks. On revient en arrière, on voit la fille toute petite, on voit la fille à 9-10 ans, et puis après on ne la voit plus. Par contre on voit l'ami et on voit les relations de cette femme au cours de sa vie, avant de la voir, comme on l'a vu dans la première séquence du film, avec son compagnon qui décide de partir ensemble.
Comme l'a bien souligné Paul, c'est une histoire gigogne. C'est comme si on tirait des tiroirs. Voilà, des tiroirs. Et on ouvre un tiroir, ah, c'est cette époque-là. Et puis on va en ouvrir un autre, mais c'en est une autre.
C'est pas trop déroutant, ces flashbacks un peu incessants?
C'est justement ce qui fait tout l'intérêt du film et qui montre ce qui est capital et ce qui a finalement été le plus difficile pour cette mère, pour cette femme, le fait de perdre sa fille. Puisqu'elle n'aura plus de nouvelles d'elle, et d'en connaître les raisons plus tard. Mais ça, on va le découvrir en regardant le film, parce que c'est une fuite en avant, c'est le paradoxe, c'est une fuite en avant, mais vers l'arrière. C'est une fuite en avant dans le passé. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, justement, pour qu'on en arrive là, voilà. c'est pour que j'en arrive là. C'est finalement une question que j'imagine que peut se poser le personnage. Et puis il y a le train. Le train, c'est important, il se passe beaucoup de choses dans le train, puisqu'il est le théâtre de la disparition, ça. Et puis il revient périodiquement, en disant, avec ses histoires de tiroir, le revoilà. Et alors ça, c'est évidemment, c'est facile, mais le train, c'est le temps qui passe. Quoi. Bon.
En même temps, c'est très hitchcockien.
Oui.
Le train est le lieu aussi de la rencontre amoureuse, mais aussi la rencontre de la mort, et qui génère la culpabilité. Y a une première scène, on peut la décrire rapidement. Elle est seule dans un compartiment, arrive un monsieur avec son sac qui pose et qui essaie de lui parler. Et elle se refuse à cette prise de dialogue et elle va dans le wagon restaurant et puis le train s'arrête. Et puis elle revient et il y a un accident. Et bien c'est l'homme qui est passé sous le train et découvre que le sac est vide. Et elle se dit, mais c'est à cause de moi, j'ai refusé de l'écouter, et elle s'est suicidée, et elle porte cette culpabilité-là. Et en même temps, c'est le lieu de la rencontre de celui qui va devenir son amant, puis son mari. Pas celui qu'on a vu dans la première scène du film. Donc, c'est une histoire qui s'articule sur la mort, sur la responsabilité, en quoi je suis responsable de ce qui est arrivé à ce monsieur. Et donc, il y a à la fois la découverte d'un très bel amour, hein, c'est une belle histoire d'amour, mais en même temps sur un fond de malaise. De malaise. Et puis, ça va se reproduire au cours de son existence. Alors, bon, faut peut-être pas tout raconter.
Il vaut mieux pas.
Hein, parce que ce qui est intéressant.
Tu parlais d'Hitchcock, il y a quelque chose, il y a le train, il y a Hitchcock, il faut garder le secret.
Oui, il faut garder le secret. Et ce qui est intéressant à propos de secret, c'est que le spectateur chemine tout au long du film en se disant, mais où est le truc qui va pas, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend qu'à la fin, une raison possible à la fuite de la fille qui ne donne plus de nouvelles. Et on ne va pas divulgâcher, comme on dit.
Oui. Comme
la
si,
fin.
Comme si la. Voilà, allez, on peut dire une chose. Comme si la culpabilité pouvait être transmise. Oui.
C'est dramatique, quand même, tout ce que vous dites là.
Ah oui,
on est clairement sur le dramatique.
Oui, ah oui, oui, oui. Quand on parle de mélo. Les mélos d'Almodovar sont de vrais mélos. Mélos, drame, oui, oui, oui.
C'est plus drame que mélo aussi, parce que c'est évoqué presque sans le dire, mais ça fait d'autant plus peser le côté, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des drames? Alors, ça ne fait pas pleurer, forcément.
Oui, on n'est pas dans le pathos.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire qu'on n'est pas manipulé, mais on est en interrogation sur « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Enfin, voilà, ça, c'est très fort.
Et puis, où il est très fort aussi, Almodovar, je le disais, c'est cette façon de raconter l'histoire, en faisant ces ellipses, ces retours dans le passé, ces sauts temporels, on prend le train, et c'est aussi le brio de la mise en scène aussi, comment il passe d'une actrice à une autre, parce que cette femme vieillit, et donc pour la faire vieillir, on change d'acteur. C'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen que le maquillage qui, encore que maintenant ça fait beaucoup de progrès, mais de garder le même acteur et de le faire vieillir, en l'occurrence la même actrice. Non, là, on change d'actrice. D'ailleurs, l'affiche aussi en est un bon exemple, puisqu'il y a comme qui, une certaine façon, on voit une jeune femme qui ouvre... pas son corsage, son manteau, et sous cette jeune femme, il y a une dame plus, une femme mûre, plus âgée. En fait, quand on a vu le film, on comprend. En fait, c'est le même personnage.
Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans la même scène, on passe de l'une à l'autre.
C'est ça.
Et ça paraît très naturel. Je veux dire que c'est évident que c'est la même.
Oui, on voit pas la différence.
On voit la différence, mais on voit bien que c'est le même personnage.
Que le temps a passé.
Que le temps a passé. Et c'est tout à fait crédible.
Quel message, justement, du réalisateur avec ce film ?
Le message, je ne sais pas s'il accepterait...
Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ?
Il veut nous montrer que d'une histoire inquiète peut naître quelque chose aussi qui permet de se construire. C'est-à-dire que sans trop dévoiler. Il y a des ruptures qui sont très douloureuses. Ça génère des dépressions. Ça génère de la suspicion, de la méfiance. Mais en même temps, ça suscite aussi de l'amour qui s'est resté discret et présent tout en se manifestant pas. Ça génère aussi une certaine liberté, mais qui prend du temps. À se mettre en place. Il y a des personnages magnifiques. Hein. Le jeune mari de la jeune femme, c'est un grand amour. Et puis en même temps, on découvre que, bon, bah comme dans toute vie, il y a des failles. Mais c'est en même temps une histoire d'amour très, très forte et très belle. Il y a l'amour de la fille, de cette femme-là pour sa mère, qui vit une relation vieillissante difficile avec son père. J'en dis pas plus non plus. Mais la fille se rapproche de sa mère. Et elle est pleine de compassion. Il y a plein d'attention, plein de délicatesse en même temps. Il y a l'ami du mari, une amie qu'elle a jalousée pendant un certain temps. Et puis, il y a quelque chose de très fort qui se joue entre ces deux femmes. Et c'est cet ami-là qui va permettre d'avancer et de comprendre ce qui s'est passé.
Ce qui traverse le cinéma d'Almodovar, c'est donc les trajectoires de ces personnages. Et quels que soient les personnages dans tous les films de Almodovar, aucun ne peut échapper à son passé. Mmh. Aucun. Ouais. Ça, il y a quelque chose qui va le rattraper. Et celui-là, Julieta, est un de ceux qui est le plus sombre. Le plus sombre parce que vraiment, elle a du mal à atteindre la rédemption, quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'elle l'a... Allez le voir, hein, ou revoyez-le, puisqu'il est très facile de le voir sur toutes les plateformes de VOD. À l'heure actuelle, on peut voir ce film d'Almodovar. Mmh. Mais c'est vrai que là, il la malmène, hein. Julieta, il la malmène beaucoup, et c'est très difficile ce qu'il y arrive.
En même temps, il y a un final qui dit que le pire n'est pas certain.
Voilà.
Mais le film ne dit pas plus, et donc on n'en dira pas plus, c'est-à-dire que on ne sait pas la suite. On ne sait pas la suite, même si on peut imaginer que enfin, il y a des choses qui vont pouvoir se remettre en place.
Le plus de ce film aussi, c'est l'utilisation des objets personnels du réalisateur. Il fait ça dans tous ses films ?
C'est une bonne question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas s'il utilise volontiers ces objets. Ce n'est pas surprenant de la part d'Almodovar, mais... Enfin, surprenant qu'il fasse ça. Néanmoins, je ne suis pas capable de répondre à cette question.
Alors, moi, je ne peux pas répondre sur objets personnels. Par contre, sur la question Almodovar prête une très grande attention à ce qui est signifiant. Tout ne passe pas par le dialogue ou par la mise en scène. Il y a des, de fait des objets qui disent des choses et qui sont très très présents dans le film. Une statue.
La fameuse statuette, c'est ça ?
La statuette.
La statuette que lui offre l'amante.
Oui.
Alors Giulietta se voit offrir par l'amante, la maîtresse de son mari, une statuette de bronze. Alors l'image de la faute lourde. Hein, bien possible. Alors que ce soit une statuette qui appartienne à Almodovar, pourquoi pas.
Oui. Il y a aussi le tatouage que se fait Choan avec les initiales, ses initiales à lui et à elle, et qui va permettre, lorsqu'il va décéder, de le reconnaître.
Oui, parce qu'il est pêcheur.
Il est pêcheur, il part et il y a un orage et le bateau périt et lui avec. Quoi. Et elle est chargée de venir reconnaître le cadavre et c'est par ce symbole de leur amour inscrit dans un cœur qu'elle l'identifie. Donc c'est à la fois, là encore, l'amour et la mort. Mmh. La mort et l'amour, plutôt, je dirais. Ça va dans les deux sens. Voilà.
C'est là où il est un maître, passé dans cet art de montrer justement ce qui peut apparaître comme des contradictions, des choses opposées, et qui finalement, difficile d'un côté, peut-être plus légère de l'autre, mais qui s'arrangent, qui s'ajustent et qui font que finalement on peut pousser un soupir. De soulagement ou pas, mais pousser un soupir. Oui.
Ce qui est beau aussi dans ce récit-là, c'est qu'il y a des situations qu'on peut dire un petit peu hors de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'y a aucun jugement moralisant. Mais il y a une morale très forte, par contre. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre un titre de cinéma, et que dans tous ces chocs-là, alors ça peut passer par des phases de dépression, mais il y a un chemin possible de liberté aussi. Et ça, c'est très fort porté dans le film. Et je trouve que c'est un drame presque au sens grec du terme, c'est-à-dire il y a une mise en scène qui fait que la vie continue. La vie continue.
Et on terminera sur ces belles paroles. On va se quitter en musique, peut-être, en écoutant une musique de ce film, Giulietta, Cenotevas.
Te voy a dar mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente. Algo amor. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas, me vas a hacer llorar como cuando era un niño. Si tú te vas, se va a acabar mi mundo. el mundo donde solo existes tú. No te vayas, no quiero que te vayas, porque si tú te vas en ese mismo instante, muero yo. Amor de mi cariño, por Dios que si te vas, me vas a hacer llorar como cuando era un niño. Si tú te vas, se va a acabar mi mundo, el mundo donde solo existes tú. No te vayas, no quiero que te vayas, porque si tú te vas en ese mismo instante, muero, muero yo.
Présence à Aspect 94.1.
Église, Timothée Rouvière.
On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Louis-Marie Soler et à Paul Djima d'avoir accepté de nous décrypter ces deux films, Julieta et L'Innocent. L'Innocent qui est actuellement au cinéma. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette église actualité avec le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron qui propose l'atelier Frères et Sœurs sans rivalité par Anne Herbinet. En participant à cet atelier, vous apprendrez à aider les enfants à exprimer leurs sentiments envers les autres sans faire de tort, être juste sans donner également et aider les bourreaux et les victimes. L'atelier débute à 13h45 et se termine à 16h15. Il a lieu au 35 avenue Pierre-Auguste Renoir à Jurançon. Toutes les informations au 06 82 36 07 82, 06 82 36 07 82, ou sinon vous pouvez envoyer un mail à Anne Herbinet, H-E-R-B-I-N-E-T 35@gmail.com, Anne Herbinet 35@gmail.com. Le diocèse de Montauban organise, lui, la journée de rentrée des équipes pastorales. Cette journée a lieu samedi à la maison diocésaine 6 Faubourg du Moutier à Montauban. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 06 16 57 32 75, 06 16 57 32 75, ou envoyer un mail à Françoise Vergnes, V-E-R-G-N-E-S, @hotmail.fr. françoise.vergne@hotmail.fr. De son côté, le diocèse d'Auch organise la journée des diacres. Elle a lieu samedi à l'abbaye de Boulor. Information au 05 62 61 91 51. 05 62 61 91 51. Et pour clôturer, le diocèse d'Albi organise la journée de rentrée de la vie consacrée. Cette journée de rentrée proposée à tous les consacrés du diocèse sera l'occasion de faire davantage connaissance avec la communauté de Saint-Joseph de l'Apparition et de sa fondatrice, Sainte-Émilie de Vialard. La journée de rentrée a lieu à Gaillac. Toutes les informations sur albi.catholique.fr, albi.catholique.fr. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus nous décrypter l'actualité cinéma. On se retrouve dans un mois avec deux nouveaux films. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons de la situation des chrétiens dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.